Le collectif C'est Nous, regroupement d'associations hip-hop et d'artivistes, en lien avec des associations locales et nationales qui luttent contre les discriminations, organise une série d'émissions et d'échanges du 29 mars au 1er avril à 13h, en finir avec les contrôles au faciès, des solutions en droit, sur News FM et sur marumedroit.org.
Bienvenue sur News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de nos quatre rendez-vous sur la lutte contre les discriminations et plus spécifiquement sur le contrôle aux faciès. Pour rappel, tout ce début de semaine, nous avons reçu des intervenants de Paris, de Lyon et de l'agglomération grenobloise pour nous parler de cette action de groupe qui a mis en demeure l'État en fait de modifier les politiques publiques de sécurité et de faire cesser ces contrôles abusifs et discriminants. Pour ce dernier échange, nous allons parler participation citoyenne, développement démocratique et nécessité du droit. Et pour finir cette dernière série d'émissions, trois rappeurs slammeurs de talent sont là pour ponctuer également ce débat avec nous ici. Il s'agit bien sûr de Kiftou, bonjour.
Bonjour.
Et l'apprenti qui est là aussi avec nous, mais un peu loin, bonjour. Et nous avons également Ephrasis, merci de votre présence. Nous avons aussi un militant de longue date, fondateur de l'association Agora qui travaille sur les mémoires de lutte, Pierre DJ Tchétché APA, bonjour.
Bonjour.
Et toujours dans les studios avec Karim Kadri, président de l'Union des quartiers Mistral et témoin de l'action du groupe. Bonjour Karim.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de News FM.
Merci. Et on a également en ligne depuis Paris, Issa Koulibaly de l'association Pas à Pas de Belleville, Paris 18e. Bonjour Issa.
Bonjour à vous.
Et de l'autre côté du bout de fil, cette fois-ci depuis l'Italie, Judith Sunderland, l'ONG Human Rights Watch, association plaignante de l'action de groupe. Bonjour Judith.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Et moi, Sana, comme toujours, depuis le début de ces émissions, je suis avec Christelle Bernard, représentante du collectif C'est Nous, regroupement d'associations hip-hop et d'activistes de l'Isère et responsable localement de l'action du groupe, l'initiatrice de l'ensemble de ces émissions. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Et avant de commencer les discussions, tout de suite, je vous invite qu'on écoute le slammer Kiftou qui a écrit un texte qui s'appelle « Le marchand de soleil », un texte en hommage à Toumi Djaïda, initiateur de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983.
Merci. Alors avant de commencer, je veux remercier déjà toute l'équipe de News FM et en particulier, en dehors de l'équipe News FM, Christelle Bernard pour tout le travail qu'elle fait pour le contrôle au faciès. Vraiment, on est nombreux à être très impressionnés de tout le travail qu'elle fait. Donc c'est un texte écrit pour Toumi Djaïdja, initiateur de la marche de l'égalité contre le racisme en 1983. Il y a une référence forcément à la marche, mais elle est bien antécédente à ce qu'on peut connaître politiquement aujourd'hui. C'est un petit point de précision qui est important de souligner. Le marchand du soleil. À toi. À toi qui tends la main, au lieu de lever le poing, et fais le premier pas vers celui qui te jette la première pierre. À toi, qui utilise le plomb que tu as dans la tête, quitte à en prendre dans le ventre, et franchis la première marche de l'escalier pour t'affranchir de tes marques d'exilé. Message à l'âme sage qui essaime. Hommage à l'homme qui marche pour l'égalité. À toi. À toi et à tous les enfants du patriotisme, rongés devant tant de maladies, conscients de vous enfoncer dans les soucis, de froncer les sourcils, lassés d'être des Français en sursis, assignés à résidence entre schizo-identitaires et parano-sécuritaires, aux fils de Zup, toujours pris en félague par les enfants de Pétain, condamnés par la dame Nation à traîner en bas tard au pied des tours. À vous qui souhaitez à votre tour taper du pied, conscient que le mal gagne si vous laissez faire l'amalgame. À vous qui voulez vous appartenir en arrêtant de faire France à part, en quittant les traces des dandys atroces appâtés par l'apartheid, en empruntant les voies de Gandhi, Luther King et Rosa Parks, vers une planète sans être parquet ni individu apatride. Vous qui marchez contre la routine de ceux qui multiplient les divisions, pour que la roue tourne en additionnant les différences. Vous qui refusez d'être asservi par l'adversité, vous qui avancez vers la diversité, activistes du croisement des racines, face à la croissance du racisme. À celles et ceux qui marchent pour déclarer l'amour à ce pays qui n'en veut guère. Prêt à vous taper des borgnes, oui, des borgnes. Un en particulier qui ne voit pas vos bons pieds d'un bon œil. Merci à vous de conjurer ce mec tout blanc qui rumine un mektoub noir. En osant cette épopée métaphorique pour métamorphoser l'époque. À vos parents qui ont souffert en silence. À vos descendants qui auront besoin de patience. À vous qui fuyez le silence de la souffrance, cher pays de tant d'enfance. À vous qui demandez, êtes né sous le signe de l'Hexagone. Ça fait combien de temps que c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment? Aux abîmés du bitume que la société laisse béton. À vous qui ne voulez plus marcher à l'ombre. Hommage aux marcheurs qui offrent du sang frais aux hémophiles de la France aux Français. Alors que les sangsues politiciennes s'excitent. Sucer et censurer, brimer ou brider, laisser dire et interdire, défendre ou pourfendre. Hommage, hommage à vous qui kiffez, fiers de porter un kéfier, traités comme des cafards, coiffés du torchon d'Arafat. Aux bannis des banquets des mairies, aux randonneurs méprisés par les élites sans éthique, aux refoulés des randonneurs, des édiles sans mérite. À vous qui marchez déjà, à vous qui marcherez demain, à vous qui allez de l'avant pour faire reculer l'indifférent France. Des petits pas pour l'homme sont toujours un grand passage pour l'humanité. Grâce à vous, l'histoire est en marche.
Merci beaucoup pour ce magnifique texte qui nous apprend sur l'histoire importante de l'élite en France.
Merci.
Et on a aussi la chance d'avoir avec nous un contemporain de l'élite, Pierre Didier Tchétché Apea. Comment inscrivez-vous cette action de groupe dans le contexte historique de l'élite et dans la mobilisation citoyenne d'aujourd'hui?
Ben déjà, merci pour le texte. Je trouvais très pertinent, instructif. Et qui montre qu'en fait, ce sont des luttes qui viennent de loin, en fait. Les quartiers, en fait, ne sont pas un désert politique. Les quartiers populaires, comme on dit, comme on appelle ça familièrement. Ce n'est pas un désert politique parce qu'il y a une tradition de lutte et d'engagement qui s'inscrivent dans la tradition française, dans la tradition sociale et politique. Et c'est vrai que la marche, c'est un moment fort, important, ça a été même un tournant. Après la suite de la marche, il y a eu différents mouvements qui se sont organisés, à un niveau local, mais aussi à un niveau national. Et il y a toujours eu dans ces mouvements-là, un, la préoccupation de former les gens. Deux, la nécessité d'organiser une expression politique et sociale par rapport aux souffrances dont le texte fait référence. Et ces souffrances et ces inégalités, ces discriminations, qui sont les souffrances en fait que les gens vivent depuis très longtemps. Et en fait, ces souffrances se cristallisent autour de deux éléments phares dont on va sans doute parler. Il y a le contrôle aux faciès. Effectivement. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les violences policières. Et malheureusement, ces deux éléments sont ancrés dans l'histoire des quartiers populaires. Et en fait, il a toujours été question de se mobiliser contre ces injustices pour restaurer une égalité républicaine. Et cette histoire-là continue encore aujourd'hui. Si je fais référence à l'histoire ou au mouvement récent, je pense au comité Adama, je pense à l'affaire Gay, je pense à différents procès actuellement qui ont cours et qui impliquent des policiers dans la mort de jeunes, dans des conditions obscures et violentes, et où systématiquement, l'histoire le montre aussi, il y a une série de décisions de justice qui mettent en avant de la légitime défense, des peines avec sursis, des non-lieux. Et ces décisions-là créent une sorte d'impunité policière par rapport à ces actes-là. C'est cela dont il est question. Les contrôles aux faciès, pour moi, c'est toujours l'origine de ces violences-là. Ça commence toujours par le contrôle des gens. Et le contrôle des gens, c'est une forme aussi de... C'est un rituel de l'humiliation, de la négation de l'individu. Quand on se pense français, jeune, né en France, ou adulte hein, d'ailleurs, et qu'on a une institution policière qui nous traite de cette façon, une justice qui souvent couvre ces actes policiers. Donc tout ça sont à l'origine des révoltes ou des émeutes, on emploiera le mot que l'on voudra. Mais en tout cas, cette histoire-là marque bien sûr la société française, et continue de la marquer, et malheureusement, on n'en est pas encore sorti. Mais bon, je reconnais que des artistes et des espèces de... une sorte de poésie que je viens d'entendre amènent un peu de, un peu de bonheur, un peu de légèreté, un peu de joie.
Et de chaleur.
Et de chaleur, bien sûr, dans ce monde qui est parfois très, très dur.
Merci pour cette intervention, Pierre Didier Tchetché, APA. Et Karim Kadri, vous, en tant que président de l'association Kouamis, l'Union de Quartier Mistral, vous apportez votre témoignage à l'action de groupe pour faire cesser ces contrôles discriminants. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe sur Mistral et pourquoi il vous semble important d'être sur l'action de groupe?
Vous savez, le contrôle abusif, je dirais, de français, ça ne dure pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, la première génération de nos parents ont été victimes de ces contrôles. Et maintenant, la jeunesse qui est née en France et qui pense français et qui veulent être à l'égalité à la française, hein, ben ils sont automatiquement catalogués. Et ces contrôles-là, ils sont véritablement abusifs, c'est vrai. Dans notre quartier, si la jeunesse se révolte, ce n'est pas parce qu'elle a envie de se révolter, mais parce qu'elle ne veut pas suivre ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont subi.
Tout à fait.
Et ils veulent être dans un État de droit qui est la France. Hein. Et malheureusement, le droit de l'homme, ou l'article numéro 1 déjà de l'ordre de l'homme, ne s'applique pas à ces jeunesses-là, à cette jeunesse-là. Et c'est pour ça qu'ils se révoltent, tout simplement. C'est vrai, dans notre association, l'Union de quartier de Mistral, qui est le Kouamis, nous recevons régulièrement, périodiquement, ces plaintes. Ces plaintes, non pas des jeunes, parce qu'eux, ils sont déjà des victimes, mais de leurs parents. Parce que ces enfants, ils portent ce qui leur arrive quotidiennement sur le terrain. Et leurs parents, ils viennent nous voir. Moi, quand je vois que, par écrit, que le parent nous écrive et dit « Mon fils a été contrôlé », et ils l'ont trouvé 5 euros dans sa poche. Hein, ils l'ont demandé la provenance de ces 5 euros, alors c'est son père qui lui a donné pour aller acheter le pain. C'est pas de la... C'est l'abus quand même. Par contre, c'est une lutte... Moi, j'avais 16 ans, je commençais à manifester, déjà, dans les années 75 à 80. Hein, et puis, ça a duré jusqu'à présent. La justice française, elle est ce qu'elle est. Parfois, elle est bien, parfois, elle est moins bien. Mais s'agissant de contrôle de façade, je pense, il y a déjà il applique la loi de... Je prends le dicton de notre écrivain La Fontaine, de l'agneau et de loup et de l'agneau. Hein? On est automatiquement catalogué. Si tu es coupable, de toute façon, si c'est pas toi, c'est ton père, si pas ton père, c'est ton voisin. Et là, il faudrait, grâce à Mme Bernard, Christelle, qui depuis des années, elle lutte. Et puis nous, on est là pour l'épauler, pour dénoncer ça aussi, également. Et nous continuons à les dénoncer. Maintenant, je ne suis pas... D'habitude, je suis optimiste, mais s'agissant de contrôle abusif de façade, je suis très, très pessimiste.
Voilà. En parlant des enfants et du contrôle, Judith, vous avez rédigé un rapport sur les enfants contrôlés, parfois seulement à 10 ans, 11 ans, sur toute la France, un rapport qui est paru en 2020 et qui est récent, quoi, en fait. Vous êtes venu également sur notre agglomération grenobloise. Vous avez enquêté aussi. Qu'avez-vous observé localement? Quels sont les impacts de ces contrôles sur nos enfants, en fait?
Oui, c'est vrai. En effet, nous avons voulu mettre l'accent sur les contrôles d'identité réalisés sur les enfants parce que c'était un aspect qui nous semblait souvent négligé. Quand en réalité, ça commence très très jeune. Moi, j'ai parlé avec des petits de, comme vous avez dit, de 12 ans qui m'ont raconté d'avoir été forcés à mettre les mains contre un mur ou une voiture, à écarter les jambes et à subir une palpation intrusive, non, au cours de laquelle les agents leur touchaient toutes les parties du corps, y compris les fesses et les parties génitales. Et cela, en effet, pour beaucoup d'enfants, la première interaction avec la police, c'est ça. C'est aussi leur première expérience de discrimination et d'exclusion, de humiliation. Non? Donc c'est un sujet. C'est vraiment grave. À Grenoble, j'ai parlé avec 18 enfants, la plupart entre 12 et 15 ans. Et par exemple, j'ai parlé avec un groupe de 7 enfants âgés de 12 à 14 ans en ce moment-là. Et parmi eux, un seul n'avait jamais subi un contrôle d'identité de la part de la police. Tous les autres l'avaient déjà subi plusieurs fois. Mmh. Fadil, par exemple, c'est un nom de fantaisie. Il avait 12 ans. Il m'a dit qu'il avait été déjà contrôlé 5 ou 6 fois. Hein, et même avec des propos racistes une fois. Et nous avons aussi recueilli des témoignages sur Grenoble et des autres villes de la France sur des contrôles de la police devant ou à proximité des écoles, non alors que les enfants se rendaient en classe ou étaient en pause, et même pendant des sorties scolaires. J'étais particulièrement choquée pour l'histoire que m'a racontée Yassir, je répète, un nom de fantaisie, de 12 ans à Bobigny, banlieue parisienne, qui m'a raconté que lui et toute sa classe avaient subi un contrôle d'identité sur le trottoir en face de leur collège de Bobigny, alors qu'ils partaient visiter le musée du Louvre, non, dans une sortie scolaire. Et il m'a dit, ils m'ont mis les mains dans les poches, ils m'ont écarté les jambes, touché les parties génitales. Il était visiblement troublé quand il m'a raconté tout ça. Et je vous le dis pour emphatiser que les interactions de cette nature avec la police ont clairement un impact négatif sur le bien-être des enfants, comme l'ont démontré des recherches dans des autres pays. Malheureusement, j'ai pas trouver des recherches approfondies sur le sujet en France. Je crois qu'on devrait les faire. Mais des études aux États-Unis ont démontré que ces interactions avec la police à un jeune âge sont très, très mauvaises pour le bien-être des enfants et contre-productives. Non ? Et c'est pourquoi, parmi les importantes réformes structurelles qui doivent être mises en œuvre hein, pour en finir avec les contrôles aux faciès, et nous devons également voir l'adoption de règles et de règlements spécifiques pour les contrôles impliquant des enfants, pour vraiment mettre en premier lieu leur bien-être.
Comment ça se fait qu'à 10 ans, est-ce qu'on est obligé d'avoir des papiers ?
Mais non, mais c'est pas en ce moment-là. C'est vraiment, c'est pas que la police prétend avoir de contrôler vraiment l'identité en sens littéral, non. C'est comme nous avons vu dans la plupart des villes, surtout les endroits défavorisés, la police utilise ses pouvoirs très larges de contrôler les personnes comme un moyen très brut, non, d'exercer et faire valoir leur autorité. C'est que ça.
D'accord. Issa, et vous êtes président de l'association Pas à Pas et responsable de l'événement Belle Ville en Vrai. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes mobilisé depuis toutes ces années et quels sont les résultats que vous avez obtenus juridiques en fait ?
Nous, l'association Pas à Pas Belle Ville, c'est une association qui œuvre avec la jeunesse dans le quartier de Belle Ville à Paris. Mmh. Et on observe ça déjà. Étant moi-même un jeune ayant grandi dans ce quartier, et puis tout mon entourage, ma famille, mes amis, et puis au-delà de ça, tous les jeunes avec lesquels on travaille, c'est un sujet très très présent. C'est un sujet qui est vraiment ancré dans le quotidien des jeunes qui sont perçus comme noirs, qui sont perçus comme arabes. C'est quelque chose de très très présent et de très prégnant. On l'observe comme ça dans nos quartiers. Donc nous, on se mobilise sur cette question-là et on essaye de mettre en lumière, comme beaucoup ont pu le dire, les impacts de ces contrôles. Je pense que ça a des impacts sur les individus, comme l'a fortement souligné Judith et comme Pierre aussi a pu l'évoquer. Mais au-delà de ça, ça a aussi un impact sur la société en général, c'est-à-dire les personnes qui voient les jeunes noirs et arabes se faire contrôler. C'est quelque chose qui peut facilement venir renforcer des préjugés.
Exactement.
La personne qui passe sur le trottoir d'en face, qu'elle connaisse le jeune en question ou pas, elle va se dire, s'il se fait contrôler par la police, c'est bien parce qu'il a fait quelque chose. Et donc, le fait de voir toujours les mêmes se faire contrôler par la police, ça vient renforcer les préjugés négatifs qu'on peut avoir sur ces populations-là. Et puis, plus largement que ça, je pense que ça a un impact très négatif sur la société dans son ensemble. Le fait de vivre ça jeune, c'est vraiment une manière de signifier que vous ne faites pas partie de la communauté nationale. Et de constater ça à un si jeune âge, je pense que ça a un impact sur le développement citoyen de ce jeune en question. Et c'est quelque chose qui peut vraiment venir nourrir des comportements négatifs pour lui et pour toute la société. Forcément, si je ne fais pas partie de cette communauté, je ne lui dois rien. Donc, je peux entrer dans des processus
De rébellion en quelque sorte.
radicalisation délinquante, de radicalisation économique, de radicalisation communautaire, de repli sur soi. C'est quelque chose qui vient vraiment nourrir le repli sur soi et le repli communautaire. Donc,
D'accord.
dans une période où on parle beaucoup de séparatisme, je pense que c'est très intéressant de s'interroger sur quels sont les mécanismes qui viennent nourrir ça, qui viennent produire, coproduire ça. Et je pense que les contrôles d'identité discriminatoires sont un des facteurs essentiels de ça.
Est-ce que vous avez mené des actions contre l'État par rapport à ça ou votre association?
Oui, nous, on fait partie des six associations qui portent cette action de groupe.
D'accord.
Et avant ça, on a pu aussi porter d'autres formes d'actions juridiques avec des résultats, mais des résultats quand même mitigés. Comme ont pu le dire plusieurs invités dans les émissions d'avant, il y a eu des victoires significatives. Qui font qu'on ne peut plus nier le phénomène, mais il n'y a rien qui change. Et ça continue encore aujourd'hui. D'où la nécessité de lutter de plein de formes, de plein de façons différentes, en incitant les jeunes qui subissent ça à ne pas se taire, à utiliser les recours qui sont très peu effectifs, mais qui existent quand même, donc leur faire connaître et les inciter à les utiliser, et puis continuer à travailler, à militer, à agir pour faire changer et pour faire adopter par l'État des mesures qui font cesser cette discrimination.
D'accord. Avant de passer à la pause, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à l'impact de ces contrôles sur ces enfants, en fait? D'après les explications, on voit bien que, à force qu'on contrôle les enfants à bas âge, peut répercuter sur l'évolution de l'enfant au fur et à mesure et qui peut le pousser aussi dans le repli sur soi, comme Issaïd vient d'expliquer maintenant.
Je veux bien réagir
Allez-y.
même à tout ce qui a été dit là. Alors dire qu'effectivement, après la marche pour l'égalité de 83, j'ai eu l'occasion de rencontrer Toumi Djaïdja à plusieurs reprises pour en parler avec lui. Il y a vraiment des choses qui ont changé en France. Faut savoir qu'avant ça, tout le monde pouvait être armé et il y avait des morts en France qui étaient tirés comme des lapins, vraiment. Les armes s'achetaient en grande surface comme un carrefour, fusils, pistolets, tout ça. Donc la marche pour l'égalité, effectivement, les mouvements... Et ça, c'était plutôt un mouvement pacifiste. Ça a vraiment fait changer des lignes. Il y a eu des récupérations politiques, il y a eu d'autres choses qui sont moins intéressantes, moins glorieuses, on va dire. Mais en tout cas, cette démarche-là, elle a été énorme sur ce qui a pu se jouer par la suite. Dire aussi que j'ai eu l'occasion, dans tout ce que j'ai pu faire, moi, de mon côté, en tant que Français d'origine étrangère, de croiser des gens, et j'ai entendu une phrase que j'avais trouvée assez énorme qui disait: nos parents ont souffert en silence, nous on va souffrir en gueulant. Et dire aussi qu'effectivement j'ai connu ça, moi, gamin, contrôle de police allongé par terre face au sol avec la botte policière sur le dos dans les années 80, qu'il y a eu une époque quand même où la police de proximité, qu'ils appelaient ça, je crois, dans les fin des années 80, début 90, où on pouvait quand même faire des choses avec la police. Et effectivement, ça changeait quand même un peu la donne dans les relations. On se voyait plus comme des ennemis, mais comme des citoyens qui pouvaient éventuellement faire des choses ensemble. Ça, je crois, de mémoire, c'est Sarkozy qui a fait cesser cette police de proximité au sens autre que relation d'autorité et de justice, hein. Ils nous emmenaient faire des matchs de foot, ils nous emmenaient faire de la moto, les policiers, hein, qui nous emmenaient, hein. Enfin, je veux dire, ça change. complètement la donne dans, ouais. dans la manière dont on peut les percevoir. Et je crois que c'est important de le souligner. Et pour terminer, Toumi Djaïdja, dans une de ses interventions, il parle de la violence d'un policier. Au sens où on a vite fait d'être dans les généralités, effectivement, la police, les choses dans leurs ensembles. En même temps, on le sait aussi tous, qu'il y a de l'abus, des excès, des débordements, etc., etc., mais que c'est pas non plus que ça, la police. Voilà, je veux pas prendre parti pour, hein, c'est juste... voilà, j'avais beaucoup apprécié, en tout cas, que Toumi Djaïdja reprenne un propos qui avait été tenu sur la violence policière, en la resituant sur un policier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a pris deux ou trois balles dans le ventre, microchirurgie, il était sur le point de mourir. Donc, il lui parle bien de ce policier qui l'a agressé. Il parle, à ce moment-là, il ne parle pas de tout, l'ensemble du corps policier. Quoi. Enfin, voilà.
Ouais, c'est très important parce que la police est là quand même pour nous. Quoi. On doit se sentir en sécurité. Mais du moment qu'on se méfie, ça ne peut créer que des problèmes. Oui.
Excuse-moi, ça va, je t'ai coupé un peu. J'aimerais bien réagir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, notamment dans les actes d'extrême violence qui peuvent amener à la mort ou aux blessures graves, comme a pu les vivre Toumi, la question du policier, elle est totalement centrale, et il ne faut pas la nier, il ne faut pas la diluer. Mais par ailleurs, je pense que ce qui est intéressant dans notre action de groupe, c'est de constater que au-delà de la volonté du policier de nuire, mm-hmm. il y a l'institution qui produit elle-même une discrimination.
Oui.
Et c'est systémique. Et on peut observer que des policiers qui n'ont pas du tout l'intention de nuire, d'agresser, de discriminer, peuvent être amenés à le faire pour tout un tas de raisons. Parce que c'est l'habitude de l'institution.
Parce qu'il suit des ordres, en quelque sorte.
Exactement.
Qui rentre dans le moule.
Il y a la question... Je suis tout à fait d'accord. Il y a la question des habitudes. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a la question des consignes qui sont données. Hein, et on peut le sentir quand on est dans un quartier. On peut le sentir qu'à un certain moment... ça se durcit, ça se tend, et ça, c'est en lien direct avec des ordres. Il y a la question de la politique du chiffre. Quand les policiers sont évalués sur le nombre de d'arrestations, finalement, qu'ils vont faire, mm-hmm. Forcément, ça va renforcer leur propension à faire des contrôles d'identité à tout va, parce que l'avantage du contrôle d'identité, c'est qu'elle peut permettre de découvrir des infractions qui sont résolues au moment où elles sont découvertes. Ça veut dire, je contrôle 100 personnes, mm-hmm. avec un peu de chance, je tombe sur 2-3 boulettes de shit, ça fait 2-3 bâtons que je peux cocher dans le cadre de cette politique du chiffre. Donc, au-delà de la question de l'individu lui-même, il y a la question de l'institution à remettre en question, et c'est pour ça que nos associations portent des propositions qui viennent lutter contre ça aussi. C'est tout ce qui est discrimination indirecte.
D'accord.
Il y a la question de la discrimination directe qu'il ne faut pas oublier, mais il y a aussi la question de la discrimination indirecte qui est très importante. Et voilà. Merci.
Exactement. Pierre Didier, vous voulez rajouter quelque chose rapidement après...
Très rapidement, oui. C'est vrai, le nombre de policiers qui sont en désaccord par rapport à certaines pratiques abusives et intolérables. Et bon, comme ça a été dit, il y a le poids de l'institution, il y a le poids de la hiérarchie, il y a aussi un contexte politique qui fait que c'est vraiment très difficile et très compliqué. Il y a des procédures aussi en cas de mort violente, par exemple, ou de dérapage entre guillemets d'un contrôle. Il y a une procédure qui est mise en place, ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Et dans cette enquête préliminaire, ce sont toujours les policiers qui font l'enquête, qui réunissent tous les éléments matériels et immatériels, qui donnent une qualification juridique aux faits, qui transmettent ces dossiers-là au juge de l'instruction et qui aboutissent à des procès en correctionnel avec toutes les décisions qu'on connaît par ailleurs. Donc il y a tout un processus qui sort pas de la police. Et aujourd'hui, 21e siècle, et à l'avenir, on devrait pouvoir imaginer des citoyens et d'autres institutions intégrer un peu ces enquêtes préliminaires pour pas que la police soit jugée partie lorsqu'il y a litige ou lorsqu'il y a un conflit. Et pour finir, cette histoire-là des quartiers populaires, elle amène de plus en plus de gens à manifester. Mm-hmm. Et ça, c'est une excellente chose, à aller, à s'organiser, à s'exprimer, à ne pas prôner des comportements violents. Et on voit bien aussi que sur le plan du droit, il y a eu aussi un apport dû à ces luttes-là. Je rappelle tout simplement que aujourd'hui, lorsque une personne est en garde à vue, il y a une obligation à la première heure d'avoir accès à un avocat ou à un médecin. Et ça, c'est le fruit des luttes aussi des familles. Je rappelle que c'est le jeune Isaïch qui est décédé, frappé par les policiers dans un commissariat de police, et qui refusait de lui donner des médicaments parce que c'était quelqu'un qui avait un asthme grave et qui en est mort. Mmh. Et donc, à la suite de ça, il y a eu un tas de mobilisations qui a donné lieu maintenant à une évolution du droit. Donc voilà, malheureusement, sur des cas tragiques, mais pour montrer aussi que voilà, il y a des éléments qui vont dans le sens d'un plus grand respect de la République et de ses lois.
D'accord. Karim Kadri, vous voulez rajouter quelque chose 2 minutes avant qu'on passe à la pause ensuite
Je voudrais réagir sur le repli sur soi. Mm-hmm. Vous savez, dans les années 80 jusqu'à les années 2000, on avait la police municipale. Et de proximité, donc. Et ils nous connaissaient, nous, ils connaissons bien, les individus, je parle. Hein. Et il y avait un contact. Et puis même, la municipalité précédente, donc de Grenoble, elle organisait des rencontres avec les familles, avec la police, avec les techniciens de la ville, etc. Il y avait donc un dialogue. Et depuis que Mistral, avec Cherol et d'autres quartiers, sont passés par ce qu'on appelle la ZSP, zone de sécurité prioritaire, mm-hmm. la police municipale est bannie de nos quartiers. Non pas à cause de nous, mais c'est la politique de l'État. Donc c'est la police nationale. La police nationale, ne le connaissons pas. Et ils viennent habillés comme Rambo, etc. Déjà, il y a une barrière. Et le dialogue n'existe plus. Et puis, lorsqu'on amène un jeune en garde à vue, et ce qui m'a été reporté, la dame tout à l'heure, elle lui disait, la fouille jusqu'aux les parties intimes, ben, ce jeune homme me disait, l'écraser, les parties intimes, pour ne pas laisser des traces, etc. Mais les gardes à vue, en ce moment, par la police municipale, et c'est à revoir, hein, avec ou sans avocat.
D'accord, le message est passé. C'est le moment de notre pause musicale, mais aujourd'hui c'est un peu différent des autres jours parce que nous avons notre artiste ici avec nous, un artiste reconnu pour sa poésie et ses textes engagés. Merci Lafranti de votre présence.
Salut, merci.
Allez-y Lafranti, à vous l'honneur.
Des heures de palabres n'ont jamais suffi. Tourner le souci dans tous les sens, tu sais bien qu'on s'en fout. Des droits, l'homme en a beaucoup, mais pour les sous, il faut toujours un soumis. Le pouvoir, c'est jouir et c'est là que se joue le tour. Qui peut donc alors se soucier des fourmis? Des preuves de droits bafoués, tu peux en fournir. Mais les actions tournent court car on a tout dit. Un sentiment d'échec d'autant plus qu'on voit le coup venir. Mais une atrocité, ça restera un souvenir. Moi je vis tranquille comme beaucoup ici. Tranquille comme beaucoup ici. Le pire se passe et disperse. Les disparités, crises, stress. Mais quand leurs petits se marrent, nos petits se taisent. On a des petites stars. Ils ont des petits traîtres. Et dans leurs histoires, il y a nos vies de merde. Dans leurs paroisses, tous se disent prêtres. Mais je vois toujours pas de signal. Le pauvre n'est pas plus apte à mourir que l'émir. Et l'oppressé n'est pas plus préparé que toi à souffrir. Je vais te dire, le monde c'est presque un taudis. Seule la petite pièce où l'on vit nous est jolie. Je m'étonne pas que le manque de vivre pousse à la folie. On peut rien faire, nous disent-ils. L'économie sera mollie. Mais dire que pour sauver leur banque, ils ont cassé la tirelire. Encore un bel exemple, l'échec de l'Empire. On voit ce qu'on sauve, surtout ce qu'on laisse mourir. Et le soir à la télé, tu les vois en train de te sourire. Le pire se passe, mec, et disperse. Et dispare, ils t'écrisent, stressent. Mais quand leurs petits se marrent, nos petits se taisent. On a des petites stars, ils ont des petits traîtres. Mais dans leurs histoires, il y a nos vies de merde. Dans leurs paroisses, tous se disent prêtres. Et je vois toujours pas de signal. On s'habitue à tout, et dans ta semaine, t'apprendras peut-être qu'un nourrisson a été retrouvé dans une benne. Pour les scénaristes gore, mec, y a plus de boulot. Un citoyen secourt les siens, il prend 20 ans de cachot. Et des exemples comme ça, tout le monde en sort. T'en as peut-être des pires, les thèmes n'ont pas de bord. Toutes ces choses qu'on oublie font partie du décor. Demain, j'apprendrai une nouvelle façon de faire des morts. Je te tords pas l'esprit. Tu le fais très bien tout seul. Mais on s'habitue à tout. Repense à ça demain tout seul.
Merci l'apprenti. Merci beaucoup.
Bravo.
Merci.
Et nous voici de retour pour la deuxième partie de notre émission pour mettre fin aux discriminations et du contrôle aux faciès. Si vous venez de nous joindre sur les ondes du 101.2, on repart avec Ephrasis. Oui, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Otan.
Eh ben bonjour à tous. C'est pas évident de passer après l'apprenti et puis après toutes ces choses aussi intéressantes que belles qui ont été dites.
Non, on veut tout aujourd'hui, tout.
Extrait du morceau « Il faudra s'y faire ». On a passé 6 heures à s'asseoir sous le ciel. On a pas saisi leur ascenseur social. Et depuis que bavure policière est devenue un pléonasme, la cité se révolte fort, n'en déplaise aux lâches. La boule au trevant, je me réveille, il est 10h17. Je commence à m'interroger sur les désordres du siècle. Je vois nos fronts s'attrister et dans une France crispée. On n'a rien vu venir, on était tous distraits. Le temps s'est effrité et le monde s'est éparpillé. Il y aura aucun changement si on reste obsédé par billets. Quand ils écorchent mon prénom, c'est comme s'ils griffaient tous mes ancêtres. Je pense à ma famille, je lève les bras en célébrant le ciel. Dans cette atmosphère terrible, on doit se rassembler. Tu as tort si tu crois qu'on y parviendra assemblés. T'imagines pas la haine qu'on a, Babtou, Renoir, même combat. Prince Ephrasis fera grincer les racistes. Prends chaque opportunité pour être un apport d'unité pour tous ceux qui le voudront, car ce n'est pas qu'une idée. Ephra.
Merci beaucoup, Ephra.
Merci à vous.
Merci. Après avoir écouté nos artistes et nos slammers, il y a tellement de choses à dire sur ça. Donc du coup, là, on va passer dans les questions de groupe. Au regard de ces pratiques discriminantes envers les habitants, mais également envers les enfants très jeunes, quels sont les outils de mobilisation et que faire en fait ?
Peut intervenir, pardon.
Oui, allez-y.
Oui. Non, c'est juste pour dire, l'action de groupe que Human Rights Watch participe aussi avec Pas à Pas et les autres associations, cela donne l'espoir de mobiliser un peu l'opinion publique et aussi de vraiment pousser les institutions à mettre en place des réformes. Mais au-delà de ça, au niveau de mobilisation, j'aimerais dire que deux choses. Je trouve que c'est énormément important le rôle des parents, des pères et des mères. Et c'est là, on a vu dans plusieurs endroits dans l'histoire, de la lutte pour les droits, comme les mères en particulier ont été à l'avant-garde des luttes. Et dans ce cas aussi, je crois, j'ai parlé avec plusieurs mères, avec l'aide de Christelle d'ailleurs, qui m'ont parlé de leur inquiétude pour leurs enfants, pour la question des contrôles aux faciès. Mmh. Et par contre, j'ai parlé avec pas mal d'enfants sur leur expérience et je demandais toujours, est-ce que vous avez raconté tout ça à vos parents? Et la plupart ont dit que non, parce qu'ils étaient convaincus que leurs parents auraient pensé que c'était eux, qu'ils avaient fait une bêtise, que ça allait retourner mal sur eux. Donc, faire en sorte que ça soit une discussion en famille de plus en plus pour faire en sorte que les parents s'intéressent à ça et se mobilisent, non, à faveur de leurs enfants. Et au même temps, dans l'école, je trouve que c'est un sujet qu'il faudrait aborder systématiquement dans l'école. Mmh. Et je trouve que ça ne passe pas comme ça non plus. La plupart des jeunes m'ont dit non, mais j'en parlerai jamais avec mes profs. Et les profs n'ont jamais soulevé la question. Donc, je crois que c'est les deux endroits où il faudrait essayer davantage. Je sais qu'il y a plein d'exemples où ça se passe déjà, mais pousser encore cette mobilisation en famille et dans les écoles. Voilà.
D'accord. Oui, Karim.
Oui, s'agissant de l'école aussi, et il faudrait toute une politique parents, éducation nationale, donc l'école, et surtout la politique de fréquentation dans la rue. Et je pense, moi, en ce moment, aux parents monoparentales, hein, et surtout les familles monoparentales, autrement les mères de famille, qui malgré elle. Elle ne peut plus, à partir de 13 ans, 14 ans, c'est fini, elle ne peut plus cette autorité maternelle sur leurs enfants. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Et donc, nos autorités, ou tous les acteurs sociaux que nous sommes, d'ailleurs, il faudrait qu'on multiplie nos efforts afin que l'enfant ne soit pas livré à lui-même. Et encore une fois, je déplore que les institutions, et surtout la police municipale, a disparu dans nos quartiers. Je pense qu'il y a un dialogue qui était un précipice même qui s'était instauré depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années déjà. Donc, un policier vis-à-vis d'un enfant, et automatiquement, il est là pour réprimer, il est là pour, non pas corriger, mais pour taper. Et l'enfant, il se défend comme il peut. Ce n'est plus, encore une fois, le repli sur soi. Non, un enfant, il n'est jamais... mais c'est vrai, il se trouve tout seul. Il ne parle pas à ses parents, il ne parle pas à sa maîtresse ou à son instituteur. Et il vient rarement voir les institutions ou les associations de quartier pour apporter son témoignage.
Sur les enfants, quoi, en fait, c'est tout à fait vrai. Parce qu'un enfant, c'est comme un tableau vierge. Exactement. Sur lequel rien n'est écrit et que l'on peut tout écrire, en fait. Donc, tout dépend de la société dans laquelle il vit aussi. Oui, Christelle.
Oui, je voulais juste rebondir aussi et peut-être dire que sur cette question du contrôle au faciès et de la relation entre les enfants, les parents et la police, il y a quand même une difficulté qu'on n'arrête pas de soulever depuis ces quatre émissions, c'est ce déni institutionnel, ces difficultés aussi politiques à parler de cette problématique. Et cette violence institutionnelle qui fait que les maires, de toute façon, qu'est-ce qu'elles peuvent faire contre un système aussi qui est vraiment implanté de manière historique et depuis longtemps. Et du coup, c'est aussi un rôle des institutions, mais je veux dire des associations de quartier, des associations d'habitants, comme l'a fait Karim, aussi d'agir en droit, de rappeler le droit, de s'inscrire dans cette dynamique aussi possible de l'action de groupe et de rappeler incessamment en fait les possibilités en droit. Parce que oui, clairement, hein, politiquement, le discours n'est pas là. Et je pense que cette émission aussi, elle est là pour rappeler les procédures juridiques qui ont été gagnées, les luttes historiques qui ont permis des avancées. Et que bien souvent les habitants sont aussi livrés à eux-mêmes. Karim parle du manquement en fait des services publics, d'abandon des quartiers, mais enfin qui est finalement qui est partout, c'est-à-dire les hôpitaux, la police, etc. Et qui crée en fait une véritable rupture entre la population et les services et les institutions. Donc Issa après en a parlé de cette politique du chiffre, etc. C'est un peu tout le même mouvement. Et cette notion de droit, de l'état de droit, est du coup importante. Et voilà, de remettre la faute sur les parents, c'est un peu... c'est très réducteur, en fait. Voilà. Mais, comme on l'a vu, elles sont aussi... Justement, elles sont là, Judith l'a rappelé, il y a des luttes des femmes, elles sont dans l'avant-garde aussi. Elles soutiennent, on a des parents qui font partie de l'action de groupe. Et je les invite aussi, du coup, à se renseigner sur le site Marie Mes Droits, encore une fois, voilà, pour s'investir et essayer de faire changer les choses.
Pierre Didier ?
Oui, peut-être rajouter dans ce qui a été dit, moi, je partage sur l'école, sur les parents, sur l'état de droit, sur les institutions. Rappeler aussi que le droit, c'est aussi le vote, et que les personnes... qui sont plus particulièrement concernés par ce problème-là, ne se mobilisent pas au moment des votes, parce que c'est vraiment très très important. C'est aussi pour ça que ces questions-là n'émergent pas sur la place publique, dans les débats publics, alors que c'est des vraies questions de fond, c'est des vrais enjeux de fond. Et je crois que s'il y avait une prise de conscience que le vote pouvait être un moyen de discuter de ça publiquement et de corriger, en tout cas d'intervenir avec des moyens, des vrais moyens sur ces sujets-là, je pense que ça pourrait aussi évoluer. Et on est un certain nombre de citoyens, alors je parle souvent des quartiers populaires, mais pas que, mais il y a des millions de gens en France qui sont préoccupés et très sensibilisés à ces questions-là. Et je pense que voilà, il faut aussi réfléchir de ce côté-là, parce qu'on est dans une société qui reconnaît le droit Et c'est un droit qu'on n'utilise pas, qu'on a tendance à négliger, voire à pas utiliser, alors que les quartiers sont très fortement politisés. Et donc, voilà, il y a vraiment du travail à faire à ce niveau-là pour que les choses changent et qu'il y ait des vraies solutions à ces problèmes-là.
Oui, en tout cas, moi, ça me rend un peu triste tout ça parce que, comme tout à l'heure, Kiftou, il venait de dire que à l'époque, il y avait la police de proximité qui était là, qui jouait avec la population, qui le faisait des promenades en moto. Ça, c'est des choses qui sont bien, en fait, qui permettent aussi une cohésion sociale. Allez, Issa, on vous écoute.
Oui, moi, Issa, je voudrais rajouter quelque chose. Mmh. C'est assez drôle, cette histoire de police de proximité, parce que finalement, ça a duré 4 ans, 5 ans. C'était entre 1997 et 2002. Mmh. Puis, le 21 avril 2002, Le Pen au deuxième tour, Chirac, Sarkozy, Premier ministre, et une des premières choses qu'il fait, c'est de dire aux policiers « Vous n'êtes pas là pour jouer au foot » ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, finalement, ça a duré très peu de temps, mais ça a laissé un très bon...
souvenir,
je suis de cette génération-là aussi. Hein. Donc ça a laissé un très bon souvenir. Mais il faut se souvenir que vraiment, c'est une parenthèse, finalement, dans l'histoire des relations entre la police et la population, notamment dans les quartiers. Mais Pierre a raison de dire que pas que. Parce que quand on est perçu comme noir ou arabe, ça ne s'arrête pas aux limites des quartiers populaires, même si c'est exacerbé dans ces endroits-là. Donc voilà, je voulais juste noter cette chose-là et puis dire que nous, les associations, tout le travail qu'on fait, même s'il n'est pas directement en lien avec cette lutte-là, il sert à recoudre, à retisser les liens qui sont rompus par ces contrôles d'identité discriminatoires et par plein d'autres choses qui se passent dans la société, bien sûr. Mais donc voilà, nous, avec notre association, c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment au travers du festival Belleville en vrai, que met en place l'association Pas à Pas. C'est aussi une manière de travailler sur l'estime de soi de beaucoup de jeunes qui sont victimes de ça, de recréer une communauté mais une communauté territoriale, donc avec tous les gens qui vivent à Belleville, donc avec des gens très très différents, parce que Belleville c'est un quartier particulier, avec une très forte gentrification, avec plein de gens différents, et donc cette rupture qui peut être initiée au jeune âge par ces contrôles discriminatoires, il y a plein de choses qui sont faites aussi dans la société qui peuvent venir réparer ça, et notamment le travail des associations de terrain.
Exactement.
Nos concitoyens de Mistral, parce que Mistral, c'est un petit quartier, mais qui fait beaucoup parler de lui. Hein. Et les habitants de Mistral, ils ont opté pour le repli sur soi. Donc, tout ce que nous faisons pour eux, c'est fini. Ils se sentent abandonnés.
Il n'y a plus d'espoir.
C'est ce qu'ils me disent, d'ailleurs. Dernièrement, il n'y a même pas 4 jours, on a fait un peu porte à porte. Ils nous ont dit, écoute, s'il te plaît, moi, j'ai une seule envie, de me barrer de là. Mais il est là depuis 50 ans, quand même. Hein. Il ne partira pas. Et chez nous, à Mistral, eh bien, les autorités pensent à nous que par cette réhabilitation, cette rénovation urbaine.
Pendant les élections et tout ça.
Les élections, ils viennent nous voir. Mais après, et je reprends ce que disait mon voisin tout à l'heure, les jeunes, ils s'en foutent totalement des élections. Ils disent à quoi ça sert. Mais c'est un droit, bon Dieu. C'est un droit à toi, mais fais-toi entendre par les urnes. Ah ben non, je dis, à quoi ça sert. Même si je mets un oui ou un non, je sais que la politique déjà a été... Comme je disais tout à l'heure, c'est la politique de le loup et l'agneau. C'est fini, à quoi ça sert? Et ça, nous, en tant qu'acteurs sociaux, eh bien, nous sommes en train de leur inculquer ce droit. Reprends ton droit, nom de Dieu.
C'est important.
Excusez-moi de
parler de ça. Oui, c'est important, mais d'un côté aussi, on peut comprendre aussi, quoi, parce que quand tu es chez toi et qu'on te dit que tu n'es pas chez toi, tu vas te sentir à l'écart. Et heureusement qu'il y a cette action de groupe qui est là aujourd'hui.
Et puis, s'ils sont victimes, lorsqu'ils portent plainte, ils ne portent pas plainte contre la police. Ils sont victimes d'ajustement de la police. Et la police, non. Il y en a une qui est venue me voir il n'y a pas longtemps aussi. Enfin, longtemps, quand même, presque un an. Lors des événements qu'il y a eu, malheureusement, à Mistral. Elle a dit, non, on ne peut pas porter plainte contre nos collègues. Il faudra que tu ailles à Lyon. Elle n'a même pas de quoi acheter un pain et il va aller à Lyon, à la GGR. Non, arrêtons, c'est une connerie, là. Et il fallait que notre intervention, nous, et grâce quand même à l'élu, je le nomme, Émile Chalas, qui a appuyé quand même notre demande, enfin que cette personne-là a été reçue par le chef de sécurité publique pour déposer sa plainte. Hein. Mais il fallait quand même du poids. Et ce genre d'action, eh ben, malheureusement, il y en a pas mal qui laissent tomber. Ils laissent tomber les gens, notre population, à cause parce qu'ils n'ont pas le sous-poids-là.
Oui. Pierre Didier, vous voulez rajouter ?
Oui, juste pour aller dans le sens de Karim. Tout système, quel qu'il soit, est toujours réfractaire à une évolution. Hein. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens dans les quartiers sont dégoûtés, écœurés de la chose politique, parce qu'ils ont tellement été trahis, tellement été trompés, tellement de promesses qui n'ont pas été tenues, et que beaucoup de gens sont dégoûtés. Mais en même temps, quand on regarde, là tout à l'heure, on parlait de l'histoire des quartiers, qu'il y a une histoire, il y a un engagement, il y a des luttes, etc. Ces luttes-là, elles font évoluer des choses aussi. Et on voit bien que sur les ouvriers, par exemple, ce ne sont pas les patrons qui, un beau jour, ont pris conscience des conditions de travail déplorables des ouvriers, qui leur ont proposé de les améliorer. Non, c'est la lutte ouvrière. Les congés payés, c'est la lutte qui a amené ça. Les femmes, c'est pareil, ce ne sont pas les hommes ou le système qui a dit, voilà, on va donner le droit de vote aux femmes. Non, c'est les femmes, leur organisation, leur pression, le besoin. Et encore aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, on parle de parité. Donc, quand on fait une loi sur la parité, ça veut dire qu'il y a des choses encore à améliorer. Donc, pour les autres citoyens et pour nous, quand je dis nous, c'est-à-dire que moi, je me sens faire partie de ces millions de gens qui sont gérés aux confins de la République, en marge de la République, je pense que pour tous ces gens-là, c'est vraiment nécessaire, fondamental de prendre conscience de cette lutte et que les choses ne viendront pas parce qu'on va nous amener tout sur un plateau. Non, c'est parce que, voilà, à l'image de nos parents. Nos parents, ils sont venus ici, ils étaient dans des conditions très difficiles. Hein. Ils ont malgré tout, ils ont fait des enfants, ils ont fait progresser les choses, ils ont fait avancer la société, ils ont fait des familles, etc. Et aujourd'hui, nous, on est leurs descendants. Donc, je veux dire, il y a une continuité dans les choses, on les obtient par soi-même, par son engagement, par son implication. Et c'est cette prise de conscience dont parle Karim qu'il faut vraiment démultiplier. Et je sais que je dis un peu des lieux communs parce que, voilà, je sais qu'il y a une prise de conscience générale là-dessus. Mais vraiment, il faut insister sur cette nécessité-là parce que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à imposer dans le débat public, dans le service public, dans le paysage public, ces questions-là qui sont encore une fois fondamentales.
Et les amis, là on va arriver bientôt à la fin de notre émission. Et Ephrasis qui nous a réservé une petite surprise, mais avant ça, on va donner la parole à Christelle. Qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont participé à ces émissions et aussi à nos auditeurs qui nous écoutent en fait?
Déjà merci, un grand merci à toutes et tous, parce que sans la participation des uns et des autres, et quel que soit leur domaine de compétences artistiques, humaines, etc., on n'aurait pas pu faire cette émission. Donc c'est vraiment un grand, grand remerciement à toutes ces personnes et ces associations qui s'investissent au niveau national, à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Grenoble. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est, et là je vais rebondir sur ce que Pierre Didier venait de dire, c'est que les luttes, en fait, des quartiers populaires et peut-être issus de l'immigration ou en tout cas des personnes qui sont discriminées, clairement, permettent un avancée de la société de manière générale et un renforcement de l'état de droit pour tous. Mmh. Et ça, je le vois, on peut le voir dans cette action de groupe, c'est-à-dire que les demandes de réforme de politique publique, qui sont notamment le récépissé, mais aussi l'indépendance des institutions de la police et notamment de l'IGPN, permettront, en tout cas, et je l'espère et je le souhaite, des réformes de politique publique qui serviront à tous. Et Pierre Didier le disait, ces luttes, en fait, sont communes parce qu'elles renforcent un état de droit et de la démocratie, l'égalité, et qui est le berceau de cet état français.
Des leviers, quoi.
Voilà, un levier d'action. Je voulais aussi rappeler qu'on a parlé encore de déni de cette situation. On fait face, quand on parle des contrôles d'identité discriminants, à une opposition forte. Je voulais rappeler que qu'on n'est pas anti-police, que des institutions, des scientifiques déjà ont prouvé cet état de fait. On a les institutions comme le DDD, comme la CNCDH, qui sont des institutions d'État. Donc on ne dit pas qui sont des institutions certes indépendantes, mais constitutives de l'État. Donc en fait, l'État porte en lui en fait ses souffrances, mais toutes les violences aussi, et constitutives de ses luttes. Voilà. Donc quand on dit que l'État est raciste, c'est pas vrai. On est constitutif aussi de l'État. On peut apporter des changements et des réformes.
Tout à fait.
Juste, je finis.
Non, y a pas de
c'était juste pour remercier, parce que vous voyez, comme l'État, la société est aussi diverse. On a eu des avocats, des scientifiques, des universitaires, on a des artistes. Donc juste pour finir, et ça c'est un travail de sociologie ou de politologue, c'est-à-dire que c'est bien aussi de montrer les mouvements sociaux, et ça c'est Touraine qui en parlait, pour dire que de montrer les rapports de domination aussi, et cette question dépasse bien entendu les clivages gauche-droite. Voilà, on est là pour construire un état de droit, et peu importe en fait, et là on revient à l'histoire peut-être de ce que disait Issa, c'est-à-dire que sur cette question de police de proximité, on est là pour construire un État qui se pérennise en dehors du champ des discriminations, quoi, si je peux le dire comme ça. Et je vais couper là, parce que moi aussi je peux être longue, j'espère que j'aurai été claire.
Non, c'est très clair.
Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et ouais. Je pense que vous avez tous bien parlé. Merci encore. Et merci à toi, Sana, pour l'animation de toutes ces émissions.
Merci également.
Et merci à News FM et pour l'accueil.
Merci, voilà, merci pour tout ce que vous faites du début jusqu'à la fin de ce projet. Et voilà, aujourd'hui, c'est la dernière émission consacrée à la discrimination et du contrôle aux faciès. Et durant ces 4 jours, nous avons entendu et écouté des témoignages ainsi que des solutions pour mettre fin à tout ça. Et si jamais vous avez des témoignages ou vous êtes victime de ces pratiques, que ce soit en France ou ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, comme Christelle et elle vient de le dire, mariemesdroitstoutattachés.org, ou vous appelez sur le 06 83 60 58 27. 06 83 60 58 27. Et vous avez également la possibilité de réécouter les émissions en podcast prochainement sur le site internet de newsfm.com. On va fermer cette émission avec Ephrasis, qui nous a réservé une petite surprise. À vous l'honneur.
Oui, puisque tout ce qu'on a entendu pendant ces 4 jours rime avec un mot, résistance, et surtout m'inspire un combat résumé en une expression employée par Kerry James, le combat continue. Donc j'ai écrit un texte de rap sur son instru, le combat continue. Allez, c'est parti. Ephrasis, E-F-R-A-S-I-S, yeah. News FM, yo.
2021, évidemment que le combat continue. On gagne en terrain, nos voix ne seront plus jamais contenues. Et compte tenu des avancées, des prédécesseurs, faut se battre. Voir des jeunes de thèse oser faire des études en post-bac et s'en sortir. Monter nos sociétés, nos entreprises. Ne plus être de ceux qui souffrent le plus en temps de crise. Ils veulent que toi et tous tes potes se résignent. La France a déjà trop fait preuve d'hypocrisie. Si tu veux la paix, partage les richesses. Le combat continue, et so Kerry James. Ils veulent te maintenir la tête sous l'eau. On monte des collectifs, on est ensemble. T'auras plus l'impression d'être solo. Montre-leur qu'on n'est pas prêt à se rendre. T'es fou toi, jamais je lâche. Grandis dans le foutoir dès le plus jeune âge. Tout le monde, t'es fou toi, jamais je lâche. Grandis dans le foutoir dès le plus jeune âge. Ça fait... T'es fou toi, jamais je lâche. Grandis dans le foutoir dès le plus jeune âge, Ephra.
Yeah. Merci à tous.